Canal Académie. L'entretien de la semaine.
Vous écoutez L'Envie de Savoir, l'émission de culture générale proposée par l'Institut de France. Avec chaque semaine, un nouvel invité qui nous entraîne dans son univers. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Hall, biologiste moléculaire, professeur à l'Université de Bâle. Bonjour à vous, Michael Hall.
Bonjour à vous.
Vous êtes un scientifique mondialement connu pour vos découvertes qui sont à la croisée de la biologie et de la médecine. Vos recherches ont été publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses de la planète. Vous avez reçu le prix Lasker, qui est l'antichambre du prix Nobel, dit-on. Et cette semaine, c'est la grande médaille de l'Académie des sciences que vous recevez. C'est la plus haute distinction de cette académie. Alors, ce n'est pas du tout votre première récompense, Michael Hall. Loin de là, on ne compte plus le nombre de vos remises de prix. Est-ce que vous ne finissez pas par ressentir une forme d'habitude devant toutes ces récompenses, ou vous conserver quand même malgré tout la même émotion, la même reconnaissance à chaque fois?
Oui, c'est très content d'avoir ces prix, c'est vrai, mais je crois qu'on n'arrive jamais à s'habituer. Chaque fois, c'est un grand honneur, et c'est une grande joie aussi. Donc, aussi pour la grande médaille de l'Académie des sciences.
Et vous êtes donc à Paris pour recevoir cette médaille. Je rappelle deux, trois faits biographiques sur vous, Michael Hall. Vous êtes né à Porto Rico, vous avez grandi au Venezuela et au Pérou avant de retourner étudier aux États-Unis et faire cette carrière scientifique incroyable. On va tenter de mieux la comprendre dans quelques instants. Mais d'abord, un grand merci d'être dans notre studio à Paris pour cette interview que vous nous accordez. Vous l'avez entendu en français, en plus, parce que oui, vous maîtrisez très bien la langue de Molière. D'où vous vient, d'où vous vient ce français?
D'où vient le français? Bon, d'abord, j'ai passé 8 mois à Paris en 81, faire quelque chose qu'on s'appelle un postdoc, mini postdoc, à l'Institut Pasteur, chez Maxime Schwartz, qui plus tard est devenu le directeur de l'Institut Pasteur, un chercheur français très connu. Et puis, c'était à cette époque-là que j'ai rencontré quelqu'un qui est plus tard est devenu ma femme.
Votre femme est française.
Ouais, justement, ma femme est française. Et on est partis tous les deux ensemble pour habiter en Californie, à San Francisco. Et on est resté là 6 ans, et puis après ça, on a rentré en Europe, mais en Suisse.
Cette fois-ci en Suisse, où vous êtes resté de nombreuses années, et où vous êtes toujours d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez mentionné ce séjour en 81 à l'Institut Pasteur à Paris. C'est 10 ans plus tard à peu près que l'on va commencer à parler de vous, en tout cas à une plus grande échelle. Les années 90, c'est un moment clé dans votre carrière scientifique parce que vous allez découvrir avec votre équipe une voie qui permet de contrôler la croissance cellulaire. Alors comme ça, ça a l'air assez anodin, mais la découverte de cette voie qu'on appelle TOR, T-O-R, ça a été une petite révolution dans le monde scientifique. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs pourquoi ?
Oh, je ne sais pas où commencer, c'est vraiment une grande histoire, une longue histoire.
C'est long.
Il faut commencer avec la croissance cellulaire. Donc, vous savez combien de cellules vous avez dans votre corps ?
Absolument pas. Dites-le-moi.
Devinez un chiffre.
Je dirais plusieurs millions.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Milliards ?
10 000 milliards.
10 000 milliards ?
Oui. Donc, beaucoup.
Effectivement,
et chaque cellule a besoin de grandir. Et chaque cellule grandit dans une manière qui est coordonnée avec toutes les autres cellules. Personne n'a soupçonné qu'il y a quelque chose qui contrôle tout ça.
Qui contrôle cette croissance
cette croissance cellulaire, justement. En 91, on croyait que la croissance cellulaire n'était pas contrôlée. Il n'y a pas de système pour contrôler la croissance cellulaire. C'est contrôlé dans une manière passive. Donc, si on mange, il y a des molécules pour construire une cellule. Mm-hmm. La cellule s'est construite tout seul sans être contrôlée. Vu du point de vue d'aujourd'hui, c'est très étrange qu'on a pensé ça à l'époque.
Oui, c'est anachronique.
Oui, c'était le paradigme. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais le paradigme, oui. Donc, c'est le paradigme de l'époque. Et puis, personne ne pose un challenge à cette
façon de penser oui. les cellules. Et vous avez été le premier, en fait.
J'étais le premier, oui, pour poser la possibilité que la croissance cellulaire est contrôlée.
Et contrôlée par
Thor,
voilà. T-O-R, cette fameuse voix. Alors, est-ce qu'on pourrait la présenter, cette voix Thor, comme en quelque sorte le cerveau de la cellule? Est-ce qu'on peut dire ça? Le cerveau de la cellule qui va contrôler la croissance, le métabolisme, le vieillissement.
C'est une métaphore que j'utilise souvent.
Je l'ai vu dans vos recherches. Je la reprends aujourd'hui parce que c'est une métaphore qui pourrait parler aux auditeurs.
Et oui, c'est une bonne métaphore parce que Thor reçoit des signaux de l'extérieur de la cellule. Il y a des récepteurs, des autres molécules sur la surface de chaque cellule, que quand il y a, par exemple, des nutriments, des hormones, ça active ce récepteur. Et donc, ça active Thor et la voie Thor. Thor est une protéine, une voie de communication à l'intérieur de la cellule. Et quand Thor est activé, ça active plusieurs différentes réactions dans la cellule. Thor perçoit qu'est-ce qu'il y a autour des cellules et puis change la réaction des cellules.
Donc c'est ça.
C'est comme le cerveau, oui.
C'est la fameuse voix qui va contrôler donc cette croissance cellulaire dont on pensait il y a quelques années, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'elle n'était pas du tout contrôlée, elle vivait sa vie. En fait, non, cette protéine Thor la contrôle. Elle est présente dans toutes les cellules de l'organisme, partout, chez tous les mammifères, c'est ça?
Oui, mais plus que ça, c'est dans presque toutes les cellules qui existent sur la Terre, sauf les bactéries. C'est la levure, les vers, les insectes, les plantes, toutes les cellules, tous les animaux, tous les organismes.
Et quand vous avez commencé à découvrir cette voie Thor dans les années 90, est-ce que vous aviez conscience de l'avancée majeure que ça représentait dans le monde de la recherche?
Non, aucune idée.
Absolument aucune idée.
On a commencé avec une molécule qui s'appelle rapamycine.
La rapamycine.
C'est une molécule naturelle produite par une bactérie qui était trouvée dans un échantillon de terre trouvé sur l'île de Pâques.
Bien spécifique.
Donc c'est une histoire qui commence il y a déjà... cet échantillon, ça vient de 1965.
Oui, dans les années 60.
Oui. Et puis, ils ont isolé cette molécule. Les chercheurs qui ont fait ça... chercher une molécule qui pourrait être développée comme médicament. Et en fait, c'est devenu un médicament pour traiter...
les greffes.
Les greffes, justement. Ouais.
Pour prévenir les rejets, les rejets de greffes.
Voilà.
Et donc vous êtes le premier à découvrir cette voie Thor. À l'époque, aucun autre chercheur travaillait dessus, sur cette...
Non, il y a beaucoup de concurrence pour trouver la cible de cette protéine rapamycine, parce que c'est devenu un médicament très important et ça a captivé l'intérêt de beaucoup de chercheurs partout le monde. Donc tous ces chercheurs ont cherché pour la cible de cette molécule qui s'appelle rapamycine.
Et alors, j'en reviens à cette voie Thor qui, on l'a compris, elle est cruciale puisque c'est elle qui contrôle la croissance des cellules. Mais il peut arriver que cette voie Thor se dérégule et ça peut entraîner le déclenchement de certaines maladies. Pourquoi cette voie Thor, elle se met à dysfonctionner parfois?
Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons des défauts génétiques. Il y a une mutation qui change l'activité. Il y a des régulateurs... qui contrôle l'activité des Thor, c'est les mutations dans les gènes qui produisent cet régulateur des Thor. Ça peut changer l'activité des Thor, ça peut donner plus d'activité ou moins d'activité. Et s'il y a plus d'activité des Thor, ça peut causer le cancer, par exemple, parce que le cancer, c'est une maladie de croissance. La croissance n'est pas contrôlée.
C'est une croissance cellulaire qui est anormale, il y a trop de cellules.
Hypercroissance, oui.
C'est de l'hypercroissance et Thor...
Et ça, dans un tumeur, voilà.
Et Thor n'est plus là pour contrôler, ne fait plus son travail de régulation de la croissance des cellules.
Thor est active et trop active, elle est active tout le temps.
Donc, la voie Thor peut impacter la santé humaine quand elle se dérégule. On a parlé des cancers. Est-ce qu'il y a d'autres maladies
Le diabète aussi. Dans ces cas-là, c'est le contraire. S'il n'y a pas assez d'activité Thor, ça peut causer le diabète. Si on a trop d'activité Thor, il y a des maladies très graves. Et si on a pas assez de Thor, il y a aussi des maladies très graves. Donc, c'est important d'avoir un niveau d'activité Thor bien contrôlée.
Oui, bien stable.
Et c'est pour ça, ça revient à le fait que la croissance est très importante. C'est un aspect de la biologie fondamentale.
Il peut déclencher donc certains cancers, le diabète, des maladies neurologiques aussi, on n'en a pas parlé, mais la maladie d'Alzheimer ou Parkinson aussi peuvent se déclencher.
Ça peut déclencher toutes les maladies des vieillesses, s'appelle. Maladie des vieillesses.
Donc la voie tort est cruciale pour comprendre le déclenchement de certaines maladies. Est-ce qu'il existe des techniques aujourd'hui pour réparer cette voie tort quand justement elle dysfonctionne?
Oui, il y a toujours rapamycine.
La fameuse
vous vous souvenez que c'était une molécule qui est développée comme un médicament pour traiter le cancer aussi. Ça a devenu un médicament plus important que pour le cancer que pour éviter le jet des grèves.
Et est-ce que la compréhension de la voie tort, aujourd'hui, elle modifie concrètement les approches thérapeutiques qu'on peut avoir pour toutes ces maladies?
Oui, au niveau de savoir qu'existe cette voie et tous les autres éléments de la voie tort, chaque élément de la voie tort est aussi une cible pour différents médicaments.
Toujours.
Donc, c'est le savoir.
Toujours le savoir. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des aspects qui devraient être plus explorés dans les années à venir concernant la voie tort, justement?
Oui, dans le niveau des maladies ou en général?
En général.
Oui, quelque chose qui est très important maintenant, est-ce que tort contrôle aussi le vieillissement? Oui, c'est une maladie, le vieillissement. Et tort contrôle le vieillissement. Et ça, c'est lié à quelque chose qu'on savait depuis 1935. Qu'on a cette découverte que si on mange moins, ça allonge la vie.
Vraiment?
Oui. Donc, en anglais, ça s'appelle dietary restriction ou caloric restriction. Et c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, presque 100 ans. Et puis, les chercheurs ont cherché beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre au niveau moléculaire comment ça se déroule. Et quand on fait la découverte de tort, et on a trouvé que tort perçoit les nutriments, et l'effet de manger moins réduit l'activité de tort, et ça, donc, change le métabolisme cellulaire dans une façon que permet l'organisme...
Rajeunissement.
Voilà. Et ça marche dans la levure, les vers, les mouches et les souris. Et maintenant, il faut faire les expériences pour voir s'ils marchent chez les hommes.
Oui, donc un jour, à terme, il pourrait être exploité pour ralentir...
Oui, il y a déjà beaucoup de gens qui prennent la rapamycine contre le vieillissement.
Alors aujourd'hui, vous dirigez un laboratoire à l'université de Bâle, en Suisse. Vous n'êtes pas étranger au système de la recherche française, puisqu'on en a déjà parlé au début de l'interview. Vous avez travaillé à l'Institut Pasteur dans les années 80. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
C'était une année très importante dans ma vie. J'étais très productive. C'était que un an, mais j'ai déjà publié plusieurs... publications dans cette période. Mm-hmm. Je trouvais ma femme aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs. J'étais aussi étonné par la qualité de la recherche scientifique en France. J'ai admiré beaucoup, beaucoup la science de Jacob et Monod, par exemple, de grands chercheurs français qui ont gagné le prix Nobel. Ça fait beaucoup de temps maintenant. Et puis, quand j'étais étudiant... J'ai fait les études pour mon doctorat. J'ai lu toutes les publications de Jacob Monod et j'étais émerveillé par leur recherche.
Leur recherche
et c'est
savoir.
Pour ça que je suis venu en France, pour être à l'Institut Pasteur, là où Jacob et Monod travaillaient. À l'époque, Jacob était toujours en vie, mais Monod était déjà décédé.
Une période assez brève, mais qui fut... très dense pour vous et qui a eu beaucoup de conséquences aussi sur votre vie personnelle. Mm-hmm. Alors, on l'a dit, vos recherches vous ont conduit à travailler sur la question du vieillissement. Aujourd'hui, vous avez 70 ans. Je me permets de dire votre âge parce que je crois bien que vous allez quitter vos fonctions prochainement en raison de la limite d'âge imposée par le système académique suisse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer la recherche sous une autre forme malgré tout?
J'ai 71.
71, si on veut être
précis. Encore plus. C'est vrai, je suis un peu des systèmes académiques en Europe. Tous les professeurs de mon âge sont déjà partis à la retraite, mais j'ai la bonne chance que ma université m'a permis de continuer à faire la recherche. Où je fais la recherche depuis 1987, depuis longtemps. Et depuis l'année dernière, j'ai aussi commencé un deuxième laboratoire de recherche dans une compagnie qui s'appelle Roche, qui existe aussi, une grande compagnie pharmaceutique. Mm-hmm. Donc je suis loin d'être parti à la retraite.
Vous continuez.
Je continue à accélérer, en fait.
Et alors, c'est une question peut-être un petit peu plus personnelle, mais quel rapport vous entretenez avec la vieillesse? Parce que vous l'avez beaucoup, vous avez passé des années à l'examiner sous un angle scientifique. Comment vous l'appréhendez, vous, sur un angle un petit peu plus personnel?
Je n'aime pas du tout vieillir. C'est le plus personnel possible. Donc, non, mais je ne fais pas de recherche moi-même sur la vieillesse.
Oui, sur le vieillissement.
Donc, c'est un produit des les découvertes que j'ai faites, que les autres utilisent.
Qui sont exploitées par d'autres personnes.
Justement.
Aujourd'hui.
Donc, oui, mais c'était très, très important et très intéressant, là, les vieillissements.
Alors, vous êtes de passage pour quelques jours à Paris pour recevoir cette grande médaille de l'Académie des sciences. Vous dites que vous avez un tropisme parisien. Vous aimez beaucoup cette ville, la ville de Paris?
Bien sûr, j'adore Paris. C'est ma ville préférée du monde, oui.
C'est vrai.
Je suis marié à une Parisienne. On a un appart à Paris même. On vient souvent à Paris.
Et peut-être que vous allez avoir plus de temps pour y séjourner. En tout cas, aujourd'hui, vous avez créé un domaine de recherche important. Comment vous voyez la plus jeune génération de chercheurs qui travaillent à son tour sur la croissance cellulaire?
En France ou dans le monde?
Dans le monde.
Dans le monde. Et c'est un domaine qui est toujours en train de grandir. Parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à comprendre. Donc, c'est une phase très, je trouve, très intéressante. C'est très bien si ça continue comme ça.
Et la recherche progresse aussi, peut-être plus vite qu'auparavant?
C'est toujours un domaine où il y a beaucoup d'applications, beaucoup à apprendre, donc oui.
Mmh. Ouais. Des applications prometteuses pour la plus jeune génération. Et finissons peut-être par cette question. Est-ce que si vous aviez un conseil à donner à un jeune chercheur en biologie moléculaire, lequel serait-ce?
Il faut être très curieux d'abord. Il faut être très persistant. Mmh. Parce que faire la recherche, c'est une vie magnifique. Je suis très content, très heureux d'être un chercheur, mais faire la recherche, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas assez patients. Faire une découverte, c'est pas quelque chose qu'on fait un jour. Ça prend des années, des années, des années pour faire ça. Donc il faut être patient et des fois, et c'est très frustrant, mais il faut travailler aussi. Ça prend du temps, ouais. Mm. Mais si vous êtes la personne pour faire la recherche, c'est une vie magnifique. Oui.
Patience et oui. Détermination, on retiendra
oui.
Ces deux
justement,
qualités.
Justement, patience, c'est le mot.
Un grand merci, Michael Hall, de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes le lauréat 2023 de la Grande Médaille de l'Académie des Sciences. La séance de remise de prix a eu lieu le 17 septembre mm-hmm. 2024. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les liens qu'on a mis sur la page de l'émission, qui renvoie notamment sur le site de l'Académie des Sciences. Un grand merci.
Merci à vous.
Canal Académie.